Bonsoir, d'en savoir plus sur Radio Grand-Ciel. Au micro, Elisabeth Couget. Bonjour à tous nos auditeurs et merci de nous écouter encore aujourd'hui. Et où j'aurai le plaisir de vous présenter sur notre antenne mon invité Pierre-François Chaumreuil, qui vient de recevoir le prix Fulbert de Chartres 2022 à la médiathèque de Chartres, qui est accompagné par son éditrice.
Cécile Richard,
voilà. Vous citez votre édition?
Oui,
votre
éditions, d'éditeur. Les éditions du Jeu de Loi.
Ah, voilà, le Jeu de Loi, très joli. Il n'y a pas que les jeux, mais voilà. C'est très joli. Et puis, nous avons bien entendu Patrick Géraudet, voilà, qui est conseiller municipal, délégué en charge de la promotion de la ville et des relations internationales. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous les trois.
Merci.
Merci d'être venu. Patrick, c'est vous qui, en compagnie de Madame Servan-Delair, que nous n'oublions pas, avez créé ce prix littéraire en 2006.
Oui, tout à fait. C'est la 17e édition en 2022. Et c'est ce qui reste, en fait, des événements qui ont eu lieu lors des cérémonies nationales
pour
le millénaire de Fulbert de Chartres.
Voilà, exactement.
Et donc, j'en suis très
le
content.
Le bicentenaire, c'était plus tôt. Voilà,
oui, exactement. Et c'est intéressant de pouvoir continuer de valoriser Fulbert de Chartres, qui est quand même un homme important pour notre ville, pour la construction de la cathédrale, et puis aussi le développement de ce qu'on pourrait appeler l'école de Chartres, une sorte d'université, avant la Sorbonne.
Absolument. Alors, il faut dire que c'est un prix littéraire qui, d'année en année, prend de l'ampleur. Et donc, c'est important qu'on en parle encore aujourd'hui. Voilà. Et ce prix, donc, a été remis par vous-même, à Pierre-François Chaumreuil. Et donc, c'est à vous que revient l'honneur de nous annoncer le titre du livre qui a remporté le prix cette année-là.
Cette année, c'est les Chroniques de Neustrie, et ça se passe pour une fois proche de chez nous, puisque c'est dans l'Orléanais, dans le sud du département. Donc c'est vraiment un livre qui concerne les Beaucerons, et je suis sûr que tout le monde aura plaisir à découvrir la Beauce d'il y a plus de 1000 ans.
Oui, largement. Effectivement, il y a très 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 longtemps, bien sûr. Alors, pour revenir encore au prix Fulbert, donc depuis 15 ans, il y a le prix Fulbert de jeunesse qui s'est rajouté au début.
Oui.
Il y avait donc...
Il y avait première année seulement. La première année, il n'y avait qu'un prix Fulbert de Chartres adulte. Et là, maintenant, il y a depuis maintenant, c'est la 16e édition d'un prix Fulbert de Chartres jeunesse. C'est Viviane Moore qui le remporte cette année pour Le Seigneur sans visage. C'est un livre facile à lire que je recommande pour les enfants d'une dizaine d'années. C'est un bon livre pour l'été et...
Même pour les adultes, pourquoi pas.
Pour les adultes, bien sûr,
ça se lit facilement. Qui nous sommes toujours des enfants, finalement.
Exactement, voilà. Et c'est vrai que ce prix Fulbert de Chartres Jeunesse est intéressant parce que ça implique 4 écoles de CM1, CM2 dans Chartres et qui, nous, on fait une sélection, les membres du jury du prix Fulbert, de 3 ouvrages, ce sont les nominés, et les enfants votent, après 2 mois de lecture, de trimestre de lecture, excusez-moi, votent à la médiathèque d'une façon officielle, à isoloir, signature, urne, et ça les habitue un peu au devoir démocratique qui a tendance à se perdre de nos jours.
La démocratie de la lecture, voilà, exactement.
Exactement.
Alors, mais maintenant, je me tourne plutôt vers M. Chaumreuil. Je voudrais vous féliciter déjà pour l'obtention de ce prix, parce que c'est toujours bien de recevoir un prix. Et je voulais vous dire que, voilà, lors de la lecture et de ce livre, puisque bien entendu je l'ai lu, d'ailleurs c'est mon mari qui l'a lu avant moi, et donc elle était absolument passionnée. Moi-même, j'étais un petit peu surprise parce que, en fait, c'est vraiment très, très différent de ce qu'on voit d'habitude. Et effectivement, c'est plus romancé, enfin, voilà. Quoique, je croyais que votre livre, c'est vraiment uniquement scientifique, mais on en parlera. On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est tellement étonnant que... Je vous assure, j'étais vraiment surprise de le lire et ensuite passionnée par tout ce que j'ai découvert. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Patrick? C'est pareil?
Oui, c'est l'originalité
de cette... Même opinion que moi.
C'est l'originalité de votre ouvrage qui a plu aux membres du jury et à moi-même. Et qui est intéressant parce que ce n'est pas la vision... On a peu de vision sur l'industrie, pour être honnête. C'est temps reculé. Les archives sont quand même limitées. Vous en citez un certain nombre. Mais c'est vrai que c'est pas... À partir de l'an 1000, on a plus d'archives quand même. Tandis que là, sur les époques plus reculées, c'est plus difficile. Mais c'est d'autant plus méritoire d'avoir réussi à écrire entre... Ben justement, d'avoir entre roman et réalité. Quelle est la part, peut-être, de chacun? On se demande
oui,
un peu.
Oui, on ne sait pas, voilà.
Oui, c'est intéressant d'avoir la exactement, vision de l'auteur.
En tout cas, M. Chaumreuil, avant de parler donc, de votre livre, citons le titre, encore une fois, « Les chroniques de Neustrie ». Alors, oui. Le Neustrie... C'est un peu le nord de la France, j'imagine, ou voilà, pas si facile que ça.
En fait, la Neustrie, ça n'est pas toujours identifié de façon très précise. Le nom a été créé au temps des Mérovingiens, Chilpéric ou Clotaire, je ne sais pas très bien. En tout cas, du temps de Chilpéric, ça existait. C'était un des sous-ensembles du royaume franc de l'époque. Et en fait... c'était peut-être, ça a dû évoluer dans le temps, mais en réalité, au bout d'un certain temps, d'une façon un peu classique, ce qui est vraiment le roc du royaume franc, c'est l'Austrasie. Mm-hmm. Et l'Austrasie, là, on comprend sans référence, c'est l'Österreich, en fait,
ouais.
C'est l'Est.
Ouais, c'est l'Est.
Et l'autre, ben, c'est... Voilà. Alors, donc, on dit Neustrie, ça veut dire Ouest. Mais en fait, on ne sait pas, parce que certains disent ça pourrait être... Le nœud pourrait être une négation. C'est le reste, quoi,
oui,
en quelque
oui,
sorte.
C'est le reste, d'accord.
Alors, en fait, maintenant, au bout d'un certain temps, ça s'est stabilisé... Mm-hmm. Et en gros, c'est, on pourrait peut-être dire, c'est la future langue d'oil. C'est la France, mais limitée à la langue d'oil.
Ah, d'accord.
De toute façon, à cette époque, il y avait encore une région qu'on appelait l'Aquitaine, et qui a été, pas vraiment, peut-être un royaume par moment, mais dans l'ensemble, c'était plutôt une région dominée par la Neustrie en général. L'Aquitaine, ça descendait, ça montait très haut. Et ça allait, du temps de l'Empire romain, la capitale de cette province romaine qui s'appelle l'Aquitaine, enfin des provinces romaines qui s'appelaient, c'était Bourges. C'est un peu étonnant, mais
ouais,
c'était ouais. Avant Bordeaux.
C'est bien avant, oui, c'est
donc,
ça.
Parce que, en fait, tout partait de Lyon pour la Gaule. Vu des Romains, la Gaule partait de Lyon, et c'est à partir de là qu'on commençait à aller. Vers l'Aquitaine, c'était donc Bourges, etc. Alors la Neustrie, finalement, c'est, disons, la moitié nord-nord-ouest de la France. Et dans mon bouquin, je me suis limité, en réalité, à la partie, on va dire, entre Loire et Seine.
D'accord.
Voilà.
Oui, c'est le nord-ouest dont il faut enlever la Bretagne qui était
voilà,
encore indépendante.
Voilà, alors la Bretagne n'en faisait pas partie, voilà. C'était encore une zone...
C'est encore un autre voilà. Endroit. Juste une question, vous avez toujours écrit, je sais bien que vous avez écrit quand même différentes choses, comme par exemple « Mémoire du Dunois, bâtard d'Orléans », bon, tout ce que vous nous amenez à connaître dans le très haut Moyen-Âge, bon, vous êtes... Historien ou juste pour le plaisir?
Non, c'est tout à fait pour le plaisir. En fait, j'ai écrit Les Mémoires de Dunois. C'était mon précédent bouquin, mon dernier
oui,
bouquin.
C'est ça.
Mais c'était aussi le premier.
C'était le premier. Oui,
voilà. En fait, j'ai commencé. Genre...
Alors, c'est un livre, rappelons à nos auditeurs que c'est un livre, donc les chroniques racontent notre histoire, finalement, à une époque qui englobe la période de Saint-Martin au roi fainéant.
Voilà, tout à fait.
Et pas fainéant, hein, attention. Quand on attend, quoique, ils ont passé beaucoup de temps dans leur palais, voilà.
Ah ben en fait, on les appelait rois fainéants, c'était un qualificatif très... comment dirais-je, négatif, mais en fait qui leur a été donné par leurs rivaux qui étaient à ce moment-là les maires du palais, ce qu'on appelait les maires du palais, c'est-à-dire les premiers dirigeants, on pourrait dire les dirigeants effectifs, qui sont les futurs Carolingiens, c'est pour ça. Une bonne partie d'entre eux, les futurs Carolingiens sont... en réalité ceux qui vont remplacer les rois mérovingiens. Et donc, ils n'ont pas été très gentils avec eux, c'est normal.
Dans la vie,
surtout, tous ceux qui écrivaient sous leur...
dictée, peut-être.
Sur leur dictée ou sur leurs ordres, méprisaient un peu ces rois qu'ils ont appelés fainéants. Alors effectivement, dans les images d'histoire d'autrefois, je ne pense pas que ça existe encore, on voyait le roi fainéant installé dans son char tiré par des bœufs, évidemment qui allait à 2 ou 3 km à l'heure, il ne risquait pas d'être rendu rapidement sur les lieux du combat à 500 km de là.
Exactement. Je vous propose quelques notes de musique qui n'est pas forcément de ce 4e, 15e et 5e, 6e, 7e siècle dont nous parlons aujourd'hui. Bon, on a trouvé quelque chose qui est un peu plus tardif vers l'an 1000, mais voilà. Alors écoutez un petit peu, mais pas beaucoup puisqu'on n'a pas. Le sujet est tellement vaste. Vous écoutez Radio Grand-Ciel dans notre émission Histoire d'en savoir plus. Je suis en compagnie de Pierre-François Chaumereuil, qui vient de recevoir le prix Fulbert de Chartres 2022, et Patrick Géraudet, à qui nous devons en partie ce prix littéraire. Et n'oublions pas l'éditrice du livre, Cécile Richard, qui nous accompagne. Alors, nous découvrons l'histoire de la Gaule, finalement, et une famille, j'allais dire gauloise, à ce moment-là, qui est orléanais. Okay. Notre région, on l'imagine, dans notre... Alors, du 4e au 8e siècle. Alors, Patrick, comment avez-vous choisi l'ouvrage de Pierre-François Chaumereuil?
Vous savez, on a un comité de lecture, donc dès qu'on a choisi celui de 2022, on est déjà sur le 2023. On lit les ouvrages récents des deux dernières années qui concernent le Moyen-Âge et qui sont plutôt un récit historique ou scientifique, mais pas une thèse. C'est un ouvrage grand public, il faut que ce soit lu pour toute personne. Donc, et dans cette sélection, on se réunit plusieurs fois dans l'année, on fait des fiches à chaque lecture, et puis... un lauréat apparaît, trois nominés, souvent 3-4, donc trois nominés à la fin, et puis un lauréat. Donc ça se fait assez naturellement, en général, bon, c'est rarement l'unanimité, mais il y a une large majorité, ça a été le cas aujourd'hui pour Chronique d'industrie.
Donc, c'est très bien.
C'est vrai qu'il y avait d'autres bons ouvrages, c'est toujours le problème, il faut choisir.
Voilà, exactement, et comme je disais, très différent de tout ce qu'on a lu jusque-là. Et
je pense que c'est ça qui nous a aussi intéressés, parce que c'était très différent des autres livres qu'on a pu imprimer.
J'ai félicité certains membres de votre comité de lecture, parce que je trouve que pour nous, c'est très intéressant aussi de découvrir ça. Monsieur Chaumereuil, parlez-nous de Léodard, s'il vous plaît, de cet abbé du monastère de Missus, et pourquoi, selon vous, voulait-il écrire l'histoire de sa famille en même temps que l'histoire de la Gaule, en fait, cette transformation de la Gaule.
Alors, pourquoi le voulait-il? Ça restera probablement mystérieux. Pourquoi, moi, je l'ai fait écrire? C'est parce que ce que je voulais avoir, c'est un narrateur qui soit un des descendants d'une famille, d'une lignée. Alors, ce Léodard a existé. Il y a eu un Léodard qui a été... abbé de Missis peut-être, parce que là je crois qu'on n'a pas de traces, mais abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, un peu plus tôt, vers 670. Et très honnêtement, ce qu'on sait de l'abbé Léodard de Saint-Benoît-sur-Loire, c'est qu'il a été abbé en 673, quelques années avant, je ne sais
donc,
plus.
Ça correspond bien à...
Voilà, je l'ai choisi, et après, le reste, bien sûr, est brodé. En fait, l'idée, c'est d'avoir une famille de façon à éviter de présenter une histoire d'une façon éloignée, ouais. Une façon vue du 21e siècle. Ouais. Tandis qu'en mettant une personne qui écrit l'histoire de sa famille, immédiatement on se branche sur l'époque, ouais. Avec les idées, enfin les idées de l'époque, ça n'est pas certain, mais ouais. Les idées que moi je pouvais leur donner, 1300
ans. Qu'on imagine qu'ils puissent avoir.
Voilà, exactement. Exactement. Mais en fait, c'est ça l'idée. Alors pourquoi un abbé, obligatoirement un religieux, bien sûr, parce qu'à l'époque, c'est vraiment l'époque où le niveau, en quelque sorte, scolaire, enfin, est le plus bas. C'est-à-dire que 300 ans avant, dans sa famille, mais partout, beaucoup de gens, à la fin de l'Empire romain, en Gaule, savaient lire, oui, et écrire. Ça. Et en plus, la lecture était très développée, l'écriture était très développée parce que les gens écrivaient sur des papyrus qui ne coûtaient pas cher, qui circulaient très très largement.
Et qui pouvaient rester.
Et qui restaient même relativement longtemps, mm-hmm. En tout cas, qui servaient comme le papier aujourd'hui, enfin disons hier. Et puis, effectivement, 300 ans, 400 ans plus tard. Mais plus, vers le 14e siècle, va apparaître le papier, beaucoup moins cher, qui finalement va progressivement...
Va détrôner le papyrus.
Va faire disparaître... En fait, est un autre support qui est peu coûteux. Et donc, à nouveau, on va avoir beaucoup d'écrits, tandis qu'entre les deux, ben, à cette époque-là, c'est le parchemin. Alors, le parchemin... C'est un coût faramineux.
C'est très cher. Oui.
C'est extrêmement cher. Il faut. Je ne connais pas les ordres de grandeur de prix par rapport au niveau de vie des gens, mais évidemment, on comprend bien que c'est extrêmement coûteux quand on voit comment c'était fait, des peaux de veau qu'il fallait. Donc, immédiatement, ça réduit par 100 ou par 1000 la quantité d'écrits qu'on peut avoir. Oui. Et évidemment, les gens associés sûrement à des tas d'autres phénomènes, l'écriture disparaît, sauf chez les religieux, les prêtres.
Qui continuent à écrire, heureusement, voilà. Heureusement pour nous. Vous parlez pas mal dans ce livre de Clovis, qui a son rôle très important, bien sûr, dans la transformation de la Gaule, et voilà la création du royaume des Francs. Voilà. C'est quand même très très important, hein, tout ça. Et on voit arriver tous les barbares au cours, avant de venir ici, on en a discuté. Donc vous savez que je suis hongroise, et c'est vrai que je cherche toujours un peu ce que je trouve à rapprocher jusqu'à vers mon pays. Et donc en l'occurrence, vous parlez aussi d'Attila, le fameux Attila, voilà, le roi des uns, ou comme disaient les enfants, le roi des uns et des autres. Donc, oui, moi, je voulais appeler mon fils Attila. Non, j'ai eu deux filles, donc elles ont échappé à ça. Mais alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on dit qu'il est barbare. En fait, il n'avait que la cour de Rome. Lui, il savait écrire, il n'y avait pas de problème. Il n'était pas du tout aussi barbare qu'on
l'imagine. De toute façon, a été appelé barbare par les Romains. Barbares, c'était tous ceux qui n'étaient pas Romains, donc par voilà, définition. Attila, il arrive en Gaule en 450, ouais, environ, mais en fait, il arrive juste avant la fin de l'Empire romain, mais ça n'est pas lui qui a détruit l'Empire romain.
Ah non,
ce sont les Goths, essentiellement, les Visigoths, les Francs, etc. Ouais, et en fait, Attila, par exemple, avait... une cour dans laquelle s'était trouvé le dernier grand général romain, celui qui a tenu l'Empire d'Occident finalement presque jusqu'aux oui. dernières années, qui s'appelle oui. Aécius, oui. Et qui a fini par battre Attila lorsqu'Attila est arrivé en Gaule. Mais en fait, ils se connaissaient, ils étaient amis, semble-t-il.
Oui, c'est ça, je crois qu'ils ont... Oui, c'est ça, ils se connaissaient depuis Rome.
Voilà, ils se connaissaient voilà.
Exactement. En tout cas, bon, bah, merci, c'est gentil, tout ce que vous dites de mon... C'est pas mon ancêtre, quand même, non. Mais on a des relations familiales entre les Hongrois et les Huns. Alors, je vous propose, pour notre petite pause musicale, un peu de musique hongroise, pourquoi pas. Voilà, dans cette dernière partie de notre émission « Histoire d'en savoir plus » sur Radio Grand Ciel, où nous parlons du prix Fulbert de Chartres remis cette année pour son roman chronique ou ce livre. Roman, on peut dire roman ?
On peut dire histoire. C'est pas un roman historique. C'est pas un roman, on pourrait peut-être dire histoire romancée.
Histoire romancée, voilà. Voilà, c'est une histoire romancée que Pierre-François Chomreuil a écrit, donc qui s'appelle Chronique de Neustrie. Alors, je signale juste encore que vous avez déjà écrit la suite, puisque ça englobe les je veux dire, 7 premiers siècles à peu près de notre ère. Et l'autre partie va jusqu'à l'an 1000. Donc, on en parlera peut-être une autre fois, pourquoi pas, ce serait avec plaisir. On en a parlé, mais j'ai aussi signalé que le prix Fulbert Jeunesse a été attribué. Et Patrick Géraudet, qui est plus ou moins le père fondateur de ce prix littéraire, en a un petit peu parlé. Donc, le livre s'appelle « Le Seigneur sans visage ». Alors, je voulais dire, c'est un livre qui parle d'une période tardive par rapport à l'autre livre qu'on vient d'évoquer. Et on parle d'un moment difficile où il y a eu quand même... Je crois que c'est une période où c'était pas facile. La vie ne devait pas être très facile. Il y avait déjà des fléaux terribles comme la lèpre, qui était très très présent à l'époque. Et puis, la vie n'était pas facile. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plus loin de ce dont vous nous parlez, mais bon, puisque c'est plutôt le XIIe siècle.
Je crois que la lèpre, effectivement, c'est surtout arrivé à l'époque des croisades, en fait.
Qui ont ramené, finalement.
Voilà. Mais effectivement, à cette époque... vers 700, il y avait bien sûr des maladies, des cataclysmes, etc. Ouais. Et en particulier, par exemple, une épidémie de peste, alors qu'on appelle de peste sans savoir en réalité ce que c'était médicalement, est-ce que c'était la même chose que la peste bubonique ou que la peste qu'on a connue dans les temps modernes. Mais en tout cas, c'est une énorme épidémie liée. C'est peut-être intéressant. En fait, au combat de Justinien, l'empereur pour essayer de récupérer de Constantinople pour essayer de récupérer au maximum des territoires et en particulier tout ce qui était l'Afrique du Nord, disons, ce qu'on appelait l'Ifriqiya à l'époque, et ça a engendré, comme beaucoup de ces guerres, une épidémie qui s'est. Alors, on peut peut-être comparer ça. Ça n'a aucun rapport avec le Covid parce que ça ne vient pas de la guerre, mais par exemple à la grippe espagnole qui est aussi apparue
à la fin d'un continent exempt.
Voilà, de conflits où il y a des déplacements gigantesques, où les combats font que l'hygiène elle disparaît complètement, etc. Ouais. Donc,
Je voulais dire à propos donc de ce livre, pour revenir à le livre de Viviane Moore, donc que c'est un livre finalement où on découvre quand même qu'il n'y a pas d'adolescence, puisque les enfants de petite enfance tombent pratiquement dans le mariage, où les petits garçons de 12 ans aujourd'hui, un gamin de 12 ans, c'est vraiment encore un enfant, ceux-là, ils vont devenir des chevaliers, ils ont une manière de vivre extrêmement ordonnée, réglée, et qu'on a du mal à imaginer vivre pour nos ados d'aujourd'hui qui vivent un peu avec leur téléphone portable, les réseaux sociaux, etc. Alors, Patrick, je voulais demander, vous qui avez rencontré ces jeunes collégiens, quelle était leur opinion finalement à propos de cette manière d'être
Ce sont des enfants en quelque sorte, puis ils sont de CM1, CM2. Et ils sont assez identifiés aux héros, tout ce qui est chevalerie, ça plaît bien, surtout aux garçons. Mm-hmm. C'est vrai que ce qui est intéressant dans ces ouvrages du Moyen-Âge, c'est que l'on constate que l'adolescence est quelque chose de récent qui a été créé dans nos sociétés. On passait de l'enfance à l'âge adulte avant. il y avait souvent, c'était la confirmation dans les événements, c'est l'âge où on est confirmé, on devient adulte. La notion d'adolescence est très récente, et je pense que c'est intéressant pour nos oui. jeunes de voir que...
Bon, mais, et même je dirais même l'enfance, ils n'avaient pas beaucoup d'enfance. Enfin,
alors, travailler dans les champs ou garder des animaux, ça s'est toujours produit. Ouais, enfin, ouais, la campagne,
c'est vrai. Ça a toujours existé.
Jusqu'à nos jours, c'est parce que maintenant, dans une civilisation où l'urbain a pris beaucoup de place par rapport à la campagne.
Il n'y a pas si longtemps que ça que les enfants.
Je ne peux pas dire que quand j'étais petit, j'étais à la campagne.
Bien sûr.
Donc les animaux, je les côtoyais au quotidien. Enfin, c'est tout à fait différent, je pense, maintenant, avec où j'allais au potager, ramasser, cueillir
les fruits. Les fruits, ce n'est pas nos parents qui les cueillaient.
Voilà, on allait cueillir.
C'est nous qui grimpions les arbres.
Ou les fraises, je me souviens quand j'étais petit, je ne sais pas à quel âge, ma mère faisait des confitures. Donc vous voyez, je pense que c'est quand même une évolution très récente. Et donc nos jeunes, ils voient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissent pas, mais c'est quelque chose qui a changé dans ces 50 dernières années.
Ils l'ont aimé, en tout cas, ils l'ont
aimé. Oui, ils l'ont aimé, ils ont largement voté pour cet ouvrage de Viviane Moore, Le Seigneur sans visage.
Je vous conseille de l'acheter aussi, et voilà, un pour le papa et l'autre pour son petit garçon qui va découvrir.
Exactement, à chaque fois, ce sont des livres qui connaissent un vrai succès auprès des libraires de la région.
Juste une question à M. Chambreux. Quel est le sujet que vous traitez actuellement? Vous préparez-vous déjà un nouveau roman ou un nouveau livre?
Oui, je suis en train de travailler sur un nouveau livre, effectivement.
Et vous égrenez toujours les pages du Moyen-Âge?
Non, de toute façon, ça ne sera pas la suite.
Non.
Ça ne sera pas la suite parce qu'il faut... Parce que toutes les bonnes choses ont une fin.
Bien sûr.
Ce serait des redites. Et puis parce que de toute façon, comme disait M. Géraudet, à partir de l'an 1000, bien, il y a des sources. Donc c'est plus du tout la même chose. On ne peut plus écrire les histoires de la même façon.
Être aussi libre non plus.
Voilà, bien sûr.
Parce que finalement, l'écrivain a une liberté que n'a pas le lecteur. Il ne peut qu'imaginer ou mettre des visages sur les personnages. Bien, écoutez, je crois que on a fait le tour de la question, quoique du Moyen-Âge, on pourra encore parler pendant longtemps, et surtout, vous savez, grâce à ces livres-là, on a une image qui nous montre que ce Moyen-Âge qu'on imaginait si sombre et tout, en fait, c'était pas si sombre que ça. Merci d'être venu. Et merci de nous avoir accompagnés, à nos auditeurs que je m'adresse là. Et je vous souhaite bonne lecture pour cet été et pour cet hiver et pour les années à venir. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
Merci.